Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio tôt le matin ou quand vous voulez en passant par le podcast. Et tous les mardis, c'est l'actualité des expos. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller au musée Bourdel, le musée Bourdel de la ville de Paris, situé à Montparnasse, qui présente pour la première fois dans une exposition d'envergure les œuvres du sculpteur et céramiste danois Niels Jensen Jacobsen, artiste pas du tout connu en France et pourtant une des figures majeures de l'art nouveau et du symbolisme. Le musée présente ses sculptures en plâtre, de bronze et de céramique alors qu'il était à Paris, fin du 19e, début du 20e siècle, des pièces incroyables, représentant d'étranges créatures inspirées de la mythologie nordique et des contes et légendes scandinaves. Pour nous en parler, la directrice du musée, Amélie Simier, co-commissaire de cette exposition, ainsi que Jérôme Godot, le commissaire scientifique, et qui est aussi historien de l'art. Merci d'être venu nous parler de cette exposition, Les Contes étranges de Niels Jensen Jacobsen, un Danois à Paris, 1892-1902.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Amélie Simier, bonjour Jérôme Godot.
Bonjour.
On va commencer à parler de ce sculpteur. Je dois vous avouer que je connaissais pas du tout ce sculpteur, ni son histoire, ni rien. Ça fait partie justement de ces plaisirs que d'aller dans votre musée, c'est-à-dire qu'on découvre aussi quelques grands artistes pas du tout connus, qui est donc Niels Jensen Jacobsen.
Mais moi je dois vous avouer que Amélie le connaissait, mais moi je ne le connaissais pas au fait. Donc ça a été l'occasion d'une vraie découverte et d'un travail en commun et d'une, comme vous le disiez, d'une vraie surprise, parce que c'est vraiment un univers fantastique, terrifiant, séduisant, effrayant, enfin tout ce que l'on aime.
D'autant plus que ça fait référence à toute une littérature qui nous a nourris quand on était enfant et qui continue à nourrir nos imaginaires.
Alors c'est très étonnant, mais en effet, ce Danois vient passer 10 ans à Paris entre 1892 et 1902.
Avec
sa femme peintre. Et il s'imprègne de ce qu'il voit à Paris, mais il apporte aussi à Paris son propre univers. Un univers de mythes, de légendes et de contes d'Andersen. Ces contes que nous avons lus, vous le disiez Toufik, que nous avons lus sans nous rendre compte à quel point ils pouvaient être parfois violents, profonds et... Il va les représenter en 3 dimensions. Et donc, nous montrons la petite sirène, qui n'est pas si anodine qu'elle en a l'air. Nous montrons l'ombre et la mort et la mer, 3 figures sorties tout droit d'Andersen.
Amélie Simier, puisque vous connaissiez l'histoire de ce sculpteur, l'histoire de cet artiste, alors qu'il n'y a même pas de fiche Wikipédia en français pour résumer. Il
faut vraiment... Elle est très bonne, vous savez, elle est très bonne.
Alors, racontez-nous l'histoire. Qui est donc Niels Jensen Jacobsen?
Hansen Jacobsen, c'est un jeune homme issu d'un milieu de fermiers aisés du Jutland. Le Jutland, c'est à l'ouest du Danemark, une province qui, à l'époque, est toute proche de la Prusse de l'époque. Et il est très doué, très vite pour le modelage. Il va se former d'abord à Copenhague, où se forment les sculpteurs, à l'Académie des Beaux-Arts. Et très vite, il éprouve le besoin d'aller éprouver son talent en le mettant en contact de l'Allemagne, l'Italie et puis Paris, qui est l'endroit où, en 1892, finissent par aboutir la plupart des artistes. Il s'installe donc au 65 boulevard Arago, dans ce qui va devenir ce que nous appelons aujourd'hui la Cité Fleurie, un espèce de havre extraordinaire où sont rassemblés des artistes qui viennent du monde entier.
Le bon moment au bon endroit, donc.
Exactement.
Et c'est comme si ce déplacement, finalement, dans l'espace allait lui permettre de s'approcher de quelque chose d'intime et de fondamental. C'est ce que, dans l'invitation au voyage, c'est ce que Baudelaire dit. Tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Il n'est pas sûr que la langue soit si douce. En tout cas, ce déplacement permet de faire surgir quelque chose de fondamentalement intime, voire violent, et en même temps qui touche vraiment à des archétypes psychiques très très profonds.
Alors ce qu'on apprend dans cette... en voyant d'ailleurs les œuvres de Niels Jensen Jacobsen, c'est qu'il y avait toute une communauté d'artistes venus du Nord qui se réunissaient avec d'autres artistes américains en plein Montparnasse.
Paris a toujours été ouvert aux artistes du monde entier. Et en effet, il venait du monde entier. Et il se retrouvait là, dans ces cités d'artistes, qui étaient bâties de briques et de brocs, avec ce qui restait des pavillons des expositions universelles. Il faut imaginer les cafés, lieux de sociabilité, comme aujourd'hui, où on parlait toutes les langues. Il faut imaginer aussi tout ce qui devait circuler en matière d'expérimentation technique, d'audace, plastique, esthétique. Et nous avons essayé, sur les 6 messes de l'exposition, de montrer à quel point ce bouillonnement créatif qui nourrit Hansen Jacobsen lorsqu'il est à Paris est né de ses proximités, ses confrontations, ses regards portés les uns avec les autres. Et donc, à côté d'Hansen Jacobsen, vous allez retrouver un autre artiste tout aussi mystérieux pour les Français, qui s'appelle Jens Lund, qui est un peintre danois extraordinaire. Et puis, vous trouverez des noms beaucoup plus connus que sont les voisins d'atelier du boulevard Arago. Alors, c'est Eugène Grasset, c'est Jeannonet, c'est Cariès, Jean Cariès, le grand céramiste. Et ça n'est pas un hasard si Hansen Jacobsen se met à la céramique à Paris et non pas au Danemark.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que finalement, il arrive et il se retrouve au cœur d'un couvent artistique qui est un couvent symboliste.
C'est vraiment... Vous voulez dire que c'est par hasard, Jérôme Godeau, ou c'est parce qu'il y avait déjà ce laboratoire formel du symbolisme qu'il vient à Paris?
Non, je pense que là, c'est vraiment... Ou alors le hasard n'existe pas, ou l'inconscient est toujours logique. Donc il y a comme ça, une coïncidence, mais en même temps une révélation. Et vraiment, ça va venir finalement susciter et promouvoir une pente, je dirais, symboliste qui existe profondément dans l'art danois, mais qui va être accentuée et révélée par ce déplacement géographique. Si on veut aller jusqu'au bout du processus, au fond, qu'est-ce que c'est que le symbolisme? C'est toujours un déplacement, parce que dans le symbolisme, vous avez une forme qui est là pour montrer quelque chose qu'on n'arrive pas à voir et pour dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. C'est-à-dire que c'est une forme qui en évoque une autre. Donc, c'est une logique du déplacement. C'est une logique du transfert.
Et lui, il vient avec quelle logique de transfert? Avec, bien sûr, sa culture, parce que ce qu'il va représenter, c'est quand même des personnages ambigus, étranges, qui font peur.
Des personnages qui font peur et en même temps des personnages qui plongent dans notre imaginaire, parce que la petite sirène, au fond, elle est l'héritière de toutes les nymphes, de toutes les Néréides. Elle s'inscrit dans un courant, je dirais, plastique et poétique, qui est vieux comme le monde. Ça commence avec la naissance de Vénus. Mais c'est vrai qu'il arrive aussi avec ce bagage d'Andersen, mais ce bagage d'Andersen qui est lu dans toute l'Europe, dont Gauguin était un lecteur assidu. Et je vous rappelle que la première femme de Gauguin était danoise. Donc il y a comme une espèce de logique étrange qui fait que finalement, il se retrouve au bon endroit, à la bonne place, pour faire surgir à la fois ceux qui le travaillent, mais ceux qui travaillent finalement l'ensemble des artistes.
Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Amélie Simier?
Il y a aussi ces figures très singulières qu'on ne retrouve nulle part sur les 6 messes parisiennes, dans les salons. C'est par exemple le troll, ou bien c'est le masque de l'automne. Le troll en particulier.
Le troll qui flaire la chair de chrétien, et le troll qui est cette entité dévoratrice qui est cachée dans les forêts ou dans les rochers pour enlever et dévorer les femmes et les enfants. Donc on se dit bien qu'en même temps, cette oralité dévoratrice, elle doit plonger dans des racines psychiques qui sont nordiques peut-être, mais pas que.
Ces quelques pièces de Niels Hansen Jacobsen, donc exposées au musée Bourdelle jusqu'au 31 mai, ce sont des pièces réalisées lors de son séjour à Paris, les 10 ans qu'il a passé à Paris. Vous êtes allé chercher aussi ce qu'il a fait avant et après son séjour parisien?
Nous avons essayé surtout de travailler sur ce séjour parisien de 10 ans, parce qu'après tout, ce sont les années sans doute les plus spectaculaires, probablement, les plus symptomatiques. Et alors, nous ne sommes pas privés de prendre une œuvre comme le troll, qui a été conçue dans la longue durée pendant laquelle il était à Paris, mais à un moment où il va passer un été à Copenhague. Et donc, le troll est surgi à la fois de Copenhague, parce qu'il est fait techniquement, pratiquement, il est conçu du bout des doigts à Copenhague, mais en même temps, cela s'inscrit dans ce long moment où il est à Paris et où probablement, comme Jérôme le dit, et je le dirai avec mes mots, mais où il est à la fois un étranger là où il est et où du coup, sa singularité propre, son identité propre, sa langue natale semble surgir. C'est une très curieuse chose. Alors pour finir sur le troll a été commandé par le mécène de Hansen Jacobsen, qui est ce brasseur encore aujourd'hui très connu puisqu'il a fondé l'empire des bières Carlsberg et qu'il a aussi créé la Nie Carlsberg Glyptotek. Et il a eu l'audace de mécéner ce jeune artiste danois en lui commandant un troll au choc pour orner sa tombe. Et ça a été une négociation sans fin avec le pasteur local pour qu'il accepte d'avoir un troll.
Quelle matière, justement, lui qui a touché à plusieurs matières?
Il a été conçu d'abord en plâtre et pour pouvoir être exposé dehors, il a été ensuite fondu en bronze.
Alors, est-ce qu'il a été connu de son vivant pendant qu'il était à Paris, Niels Hansen Jacobsen?
Il a exposé au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts extrêmement régulièrement, ce n'était pas rien. Et puis il a été exposé aussi à l'exposition universelle de 1900, dans le pavillon danois en particulier. Donc alors, il expose régulièrement.
Comment la critique, comment ses pairs accueillaient son travail, Jérôme Godot, vous qui êtes historien de l'art, en plus d'être co-commissaire de cette exposition?
Je crois qu'ils ont été surpris. Ils ont été surpris par la dimension fantastique, mais c'est un peu, Amélie parlait tout à l'heure de Cariès, du sculpteur et céramique Cariès. Nous sommes sûrs, d'abord il était le voisin d'atelier, nous sommes sûrs que Jacobsen a vu les céramiques de Cariès que nous exposons d'ailleurs avec ses grenouilles, ses figures monstrueuses, ses faunes qui ferment les yeux, qui dressent l'oreille. Donc il y a tout ce songe de la raison comme ça qui tourne autour de Jacobsen et que lui-même fait surgir. Et quand il présente son masque en céramique de l'automne à l'exposition universelle, oui, il y a un véritable écho parce que quand vous êtes face à ça, vous ne savez pas très bien en face de quoi vous êtes. C'est-à-dire que on pense à, c'est de la céramique, mais ça fait penser à de l'organique, ça fait penser à un tronc d'arbre, ça fait penser à des écorces, ça fait penser aussi à des masques japonais que, évidemment, il a vu également. Donc, ce sont des objets étranges et Amélie vous le dira aussi, la céramique telle qu'il la conçoit, on est dans quelque chose de très organique et de très expérimental. Ça s'appelle vase ou coupe, mais je mettrais qui que ce soit au défi de reconnaître des objets utilitaires là-dedans.
Ce grès émaillé, c'est une des choses qui nous a absolument fascinés en découvrant son œuvre au musée de Vaïon, d'où vient l'essentiel des œuvres de Jacobsen que nous avons empruntées.
Et c'est aussi sa ville natale, bien sûr, oui.
Dans le Jutland.
Alors, la ville, la petite ville, pour ne pas dire le village natal.
La petite ville qui était une petite ville industrielle, chose qu'on a peine à imaginer, mais qui avait en tout cas une société artistique suffisamment importante pour pouvoir susciter eh bien, des talents qui naissaient sur place. Et une des choses tout à fait singulières de Hansen Jacobsen, ce sont ses grès émaillés. Il travaille le grès comme personne à Paris au même moment, alors même qu'il est à côté de ceux qui vont radicalement renouveler le grès artistique, des gens donc comme Jean Cariès en particulier. Il va le traiter d'une manière qui lui est propre, qui est absolument expérimentale. On sent qu'il tourne ses peaux. Alors, on ne sait pas, il a fait brûler, hélas pour les historiens d'art, il a fait brûler ses archives juste après sa mort. C'est prudent, mais c'est désespérant pour nous autres.
Pourquoi vous dites que c'est prudent?
Parce que, comme ça, on est sûr de rester insaisissable. Vous savez, les historiens de l'art, ils veulent toujours mettre les choses dans les cadres et les définir. Il faut essayer de mettre la main sur quelque chose. Mais au fond, les œuvres se dérobent. Alors, en plus, quand il n'y a pas d'archives, eh bien, on est renvoyé à leur, comme dit Amélie, à leur singularité, je veux dire.
À leur étrangeté,
indéchiffrable. Oui, mais.
Et vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il prend à pleine main un matériau qui est un matériau traditionnel, le grès, qui est fait vraiment pour un usage utilitaire. Des pots, des cruches, c'est vraiment ça qu'on en fait. Il le transforme, comme toute cette école de céramistes renouvelant ce matériau en France au même moment, il le transforme en des objets qui ont à peine d'usage, mais qui ont une beauté organique qui vient de leur non-finito, des concrétions extravagantes, des cloisons de métal qu'il élabore. Alors, ce sont des alliages, jamais les mêmes alliages, parce que c'est un vrai bricoleur. Des alliages de plomb, d'étain, qui du coup sont malléables pour pouvoir suivre les courbes étranges de ces céramiques qu'il a façonnées lui-même. Et puis, il joue des émaux et la magie du feu fait que les émaux ne sont jamais tout à fait les mêmes et qu'on a donc des amas, des blancheurs, des profondeurs bleuâtres. Et oui, on a beaucoup joué de ça dans la scénographie de notre installation, oui. N'est-ce pas?
Et on ne sait pas vraiment si on est au fond des mers, si on est à l'intérieur des viscères, si on a... Il y a quelque chose qui est presque parfois gênant, parce que vraiment, il y a tout un monde d'associations qui se lève. Et on est aussi à peu près certain qu'il a entrevu les céramiques de Gauguin. Gauguin a eu une influence absolument déterminante et l'étrangeté de Gauguin, et c'est Gauguin disait lui-même, je cherche toujours le caractère du matériau et le caractère premier de la céramique, c'est le feu, et c'est le feu intérieur, et c'est le feu dévorateur, et c'est aussi le feu des, on pourrait dire, de la, des instincts primitifs.
Niels Hansen Jacobsen, cet artiste danois qui est passé donc à Paris, exposé chez vous au musée Bourdel à Paris, à Montparnasse. Comment avez-vous connu cette histoire, cet artiste, Amélie Simier, vous qui êtes directrice du musée? À quel moment vous avez été mis au courant de ces travaux?
Ça, c'est le délice des rencontres. Alors, d'une part, nous avions vu au musée d'Orsay, au Grand Palais auparavant, en 2000, en 2006, trois œuvres de Hansen Jacobsen, suffisamment frappantes pour qu'elles restent dans ma mémoire, et en fait dans la mémoire des amateurs de sculpture de cette époque-là. Et donc, lorsque Teresa Nielsen, qui est la directrice du musée de Weyen, nous a approchés en nous disant « J'aimerais tant qu'il y ait un jour une exposition à Paris de cet artiste, parce que c'est là qu'il est devenu lui-même, en vérité », eh bien, on s'est dit qu'on avait quelque chose à raconter en regardant ses œuvres si originales. On s'est dit qu'on avait quelque chose à raconter aussi en matière d'histoire d'atelier. Nous sommes le musée Bourdel, l'héritier de l'atelier d'artiste d'Antoine Bourdel. Nous sommes l'ancien atelier d'artiste d'Antoine Bourdel. Et c'est assez merveilleux de pouvoir raconter des histoires d'ateliers qui sont exactement contemporaines. Les deux hommes sont tout à fait contemporains. Antoine Bourdel vivait dans ce qui s'appelait à l'époque l'impasse du Maine, aujourd'hui la rue Antoine Bourdel, dans le même genre de cité d'artiste, avec le même genre de fréquentation internationale d'artistes qui passaient dans tous les sens. Et on s'est dit qu'il y avait là une façon de montrer à la fois un artiste très singulier, mais aussi des amitiés, de l'émulation, des rivalités, et tout un climat qui est vraiment le climat de ces années 1890 dans lesquelles les deux hommes travaillent sans forcément se croiser, mais où ils ont des amis communs, des lieux d'exposition communs, des lieux de fréquentation communs. Et quand nous sommes allés au Danemark découvrir l'œuvre dans son ensemble pour choisir ce que nous allions montrer aux Parisiens, on s'est dit que c'était formidable. Et puis c'est Jérôme qui m'a dit « mais élargissons et montrons aussi les artistes qu'il a pu fréquenter, qu'il a regardé, qui l'ont inspiré, qui ont été ses sources. »
C'est un peu comme une petite anthologie du symbolisme, mais c'est une anthologie parfaitement fondée parce qu'en fait, comme le dit Amélie, ce sont des choses qu'il a vues, ce sont des artistes qu'il a croisés, qu'il a côtoyés, ce sont des œuvres qui s'élaborent au même moment, dans le même lieu, à Paris, et qui font partie, au bout du compte, d'un imaginaire collectif.
D'où le titre, d'ailleurs, de l'exposition, « Les contes étranges » de Niels Hansen Jacobsen. C'est un Danois à Paris, 1892-1902. C'est jusqu'au 31 mai au musée Bourdel. On parle de quelques pièces, justement, de cet artiste, dans un instant, dans le réveil culturel de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Culturel en compagnie de la directrice du musée Bourdel, Amélie Simier, et du commissaire scientifique et historien de l'art Jérôme Godot pour parler de cette exposition incroyable, Les Contes étranges de Niels Hansen Jacobsen. Si vous venez d'allumer votre radio et si ce nom ne vous dit rien, pas de panique, on ne le connaissait pas. C'est une Parisiens. Découverte, hein. C'est la première exposition d'envergure consacrée à ce grand sculpteur. Qu'est-ce qu'on peut voir au musée Bourdelle, par exemple? On peut voir cette pièce absolument magnifique et complètement flippante, on peut le dire, la petite sirène, sa petite sirène à lui.
C'est la petite sirène d'Andersen. Je donnerais les 300 années que j'ai à vivre pour être personne humaine un seul jour et avoir une âme immortelle. L'histoire de la petite sirène, c'est une histoire tout à fait déchirante, hein, puisque pour changer de règne et pour avoir une âme immortelle, elle doit séduire un jeune prince. Pour ça, elle va voir la sorcière des mers, elle absorbe une boisson terrible, elle perd sa voix. À chaque pas que tu feras, c'est comme si tu marchais sur des couteaux tranchants. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince, tu redeviendras écume sur la mer.
Voilà, et vous le dites sans dire, hein, quand même. Bravo, Jérôme Godot. Mais c'est la première fois qu'on la voit ainsi, la petite sirène, c'est-à-dire qu'elle ne nous regarde pas, elle est complètement accablée, on n'est même pas sûr que...
Je suis pas sûr qu'elle soit tellement accablée parce qu'elle tient dans ses mains un poisson et son corps, elle est donc jeune femme jusqu'à la taille et ensuite sirène. C'est une étrange queue de poisson. C'est un peu comme aussi, comme si c'était un corail, comme si elle était dans une prise, dans une concrétion de coraux ou comme dans une concrétion marine. Elle est à la fois femme, coquillage. Et en même temps, elle est prise dans un double mouvement, puisque vous avez vraiment une sorte de spirale. Donc c'est comme si elle était à la fois absorbée vers le bas, comme si elle plongeait dans les profondeurs. Et en même temps, avec cette chevelure qui se déploie, c'est comme si elle montait vers les cieux. D'ailleurs, dans un premier temps, Andersen voulait intituler son conte « La fille des airs ». Et ensuite, elle est devenue la fille des mers. Et donc c'est ce double mouvement entre plongée et élévation, entre ces profondeurs aquatiques où il y a ces coraux merveilleux, ces poissons, et nous les avons exposés d'ailleurs avec des pattes de verre lumineuses, donc c'est comme si on était dans le fond des mers, et en même temps il y a toute cette blancheur comme s'il fallait déchirer la chair pour accéder au secret de l'âme.
La petite sirène, cette sculpture en plâtre, qu'est-ce qu'elle vous évoque, Amélie Simier?
Eh bien, je pense qu'il faut aussi évoquer son pendant obscur qui est caché dans la vitrine, la vitrine que surplombe la petite sirène et dans laquelle elle se réfléchit. Et juste à l'arrière, il y a cette sorcière des mers terrifiante qui, elle, est en plomb, un matériau qui est gris mat, qui renforce ce côté très obscur du conte d'Andersen. Et cette sorcière est vautrée, renversée sur un trône qui est fait d'ossements, qui sont les os de tous les, je pense, tous les désespérés, les noyés de la mer. Et elle est tout à fait terrifiante. Et c'est intéressant, c'est que la petite sirène, ça n'est pas une histoire lisse, comme le dit Jérôme, et qu'il y a cependant très obscur, et qu'il est là aussi en sculpture, plus discret.
Si vous voulez parler d'une autre sculpture de Jacobsen.
L'ombre, encore un conte d'Andersen, et un conte absolument terrible, puisque l'ombre, c'est l'ombre projetée d'un savant et d'un poète qui a la mauvaise idée de congédier son ombre pour qu'elle se glisse dans la maison d'en face et observer ce qui s'y passe. Et puis finalement, l'ombre prend goût à cet affranchissement, elle va devenir tout à fait envahissante et elle va finir par exiger du poète et savant qu'il devienne lui-même l'ombre de son ombre. Et comme il refuse, l'ombre le fait mettre à mort. Donc c'est un conte, c'est vraiment la part obscure et envahissante qui finit par dévorer, c'est « je est un autre ». Et cette ombre se déroule comme une espèce de... C'est entre la pieuvre, le haillon, une espèce de flaque en même temps ondoyante. On est vraiment... C'est la vague de la petite sirène, mais poussée jusqu'à la quintessence de l'art. On pourrait analyser de l'art nouveau.
Plastiquement, on ne connaît rien de semblable à la même époque à Paris et même après. C'est vraiment une œuvre tout à fait étonnante. Il faut venir la voir au musée pour s'en rendre compte. Nous l'avons volontairement mise très bas, sur un socle très bas, pour qu'on puisse la surplomber parce qu'elle semble s'échapper des pieds de son maître, et elle s'étend en grande nappe, en grande spirale, tout à fait effrayante. Elle brandit d'une main le sablier qui décompte le temps. Elle tend un doigt décharné. Elle a une tête de mort tout à fait effrayante. Rien ne ressemble à ça dans l'art.
Tout en étant rampante.
Elle rampe.
C'est incroyable. Alors, ce que vous dites dans le catalogue qui accompagne cette exposition, vous dites que c'est vraiment la conjonction exemplaire du symbolisme et de l'art nouveau. Pour parler de Niels Hansen Jacobsen, Jérôme Godot.
Peut-être que l'Art Nouveau, c'est la pointe ultime du symbolisme. Puisque le symbolisme, on disait tout à l'heure, c'est un déplacement. C'est-à-dire, quelque chose évoque toujours quelque chose d'autre. Et la forme idéale pour cela, c'est l'arabesque, c'est la cour, puisque dans une arabesque, vous n'avez ni début ni fin. Donc, c'est toujours un déplacement. Et l'Art Nouveau va pousser jusqu'au vertige, je veux dire, jusqu'au délire, ce perpétuel mouvement de renversement de la courbe qui peut être aussi bien une efflorescence, une montée, un épanouissement, au contraire, un engloutissement, une pieuvre, une dévoration. Et comme par hasard, ça tourne toujours autour de figures féminines. C'est-à-dire que je crois que cette exposition est aussi une méditation sur l'ambivalence profonde du féminin, en tout cas tel qu'il est fantasmé par le masculin.
Du coup, le dernier mot vous revient, Amélie Cimier.
Simplement de vous dire de venir...
C'est jusqu'au 31 mai.
Oui, venez faire cette expérience tout à fait étrange de rencontrer un artiste comme vous n'en avez pas vu d'autres. Je vous promets que vous serez très surpris.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Amélie Cimier, merci Jérôme Godot d'être passé ce matin.
C'est nous qui vous remercions beaucoup
pour nous parler de cette exposition à ne pas rater. C'est au musée Bourdel à Montparnasse à Paris jusqu'au 31 mai. Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen. Le réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Alain Joubert. Bonne matinée, on se retrouve demain à la même heure.